Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Si les forêts poussent sans faire de bruit, il est une forêt qui grandit en France, une forêt immense, celle des nouveaux chercheurs de Dieu, une spiritualité alternative regardée comme un ovni par un certain nombre de chrétiens, quand elle est en passe de devenir la religion majoritaire des Français. Méditation, activités artistiques et corporelles, développement personnel, ces nouveaux pèlerins cherchent avant tout à comprendre leur être profond, à vivre une sorte de quête initiatique avec à la clé un sentiment profond de paix, de joie et d'harmonie. Découverte. Peut-on trouver Dieu en se cherchant soi-même? C'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Daniel Vigne, diacre, professeur à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse et auteur entre autres d'un ouvrage appelé « Chemin de prière à l'écoute des pères » paru aux éditions du Carmel. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, voix connue d'un certain nombre d'auditeurs, parce que je crois qu'il y a encore certaines de vos chroniques qui passent le soir, instant de ciel, c'est ça, hein?
Je crois.
Instant de ciel. Édouard de la Portalière, vous êtes prêtre missionnaire du diocèse de Pamiers, enseignant à l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, très heureux de faire cette émission avec vous pour essayer de partir à la découverte, d'une nouvelle grande forêt, on pourrait dire, d'un nouveau continent spirituel qui est en train de grandir en France. Et c'est vrai que quand on est chrétien, quand on est pratiquant, c'est peut-être un monde qu'on ignore complètement, sauf à se balader dans certains rayonnages, ne serait-ce que dans les relais, dans les gares. Alors pour ça, on va partir d'une enquête que j'ai déjà citée à plusieurs reprises à cette antenne, donc pardon pour les auditeurs qui sont très familiers de cette émission. C'est une enquête donc qui est parue en 2014 GERPS, groupe d'études sur les recherches et les pratiques spirituelles émergentes, piloté donc par un sociologue français qui s'appelle Philippe Levallois. On va se pencher donc sur cette étude et puis après on va demander à ces messieurs de nous faire part de leurs expériences, réactions, etc. Si on commence par le tout début, que cherchent ces Français? Cette enquête, pardon, donne quelques chiffres pour commencer. Un tiers des Français seraient intéressés par le spirituel, par les questions religieuses, et auraient eux-mêmes une pratique. Est-ce que ça vous surprend, l'un et l'autre, Édouard de la Portalière ou Daniel Vigne, quand on dit qu'on est dans un pays qui est, on va dire, en pleine décroissance spirituelle? En fait, il y a comme un immense poumon qui est en train de se développer, Édouard de la Portalière.
Je peux juste partir de l'expérience qui est la mienne, donc en Ariège, où effectivement ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un déclin des religions. Ça, c'est vrai. Et je vois même au niveau des nouvelles communautés religieuses, évangéliques, qui ont même elles-mêmes du mal à se développer chez nous. Les témoins de Jéhovah qui se développent un petit peu, mais finalement ça reste marginal. Et par contre, je vois effectivement beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans une recherche spirituelle, personnelle, et non pas reliés à un groupe en tant que tel, ou en tout cas c'est des petits groupes mais qui n'ont pas forcément de sentiment d'appartenance à une grande tradition.
Alors, ce que cherchent, on continue à regarder un petit peu cette enquête, hein. Qu'est-ce qu'ils cherchent, que cherchent ces personnes? L'enquête dit la chose suivante: 71% cherchent d'abord à comprendre leur être profond et à s'y relier, 70% à trouver un équilibre et à s'unifier, 63% pardon, à vivre en plénitude dans l'instant présent. On a envie de dire, rien de très peut-être différent d'une spiritualité chrétienne bien comprise. Comment ça vous fait réagir, Daniel Vigne, ces items cités?
Et une soif évidente qui s'explique en partie, je crois, par le caractère éclaté, le caractère un peu trépidant et désorienté de la vie moderne. Quels sont les centres, les axes, les points d'appui qu'on peut trouver dans une vie comme celle qui est la nôtre aujourd'hui, saturée d'informations, traversée d'inquiétudes à tout niveau? On comprend, n'est-ce pas, que nos contemporains et nous-mêmes, au fond, avons besoin d'un centre. Et ce centre le plus central pour chacun de nous, c'est nous. C'est nous-mêmes. On peut aussi faire cette remarque que la mondialisation, à tout niveau, pas seulement économique, mais aussi culturel et voire spirituel, amène à s'intéresser à d'autres courants que ceux qui nous sont familiers. Et c'est tout à fait naturel d'être un peu attiré par ce qui nous est étranger et ce qui rejoint ou qui pourrait rejoindre notre quête intérieure. Donc je crois que ce que vous appelez un nouveau poumon, un nouveau continent spirituel, on peut en avoir une approche sociologique, historique, assez facile. D'une part, donc, il y a un besoin de se retrouver soi-même, qu'engendre un rythme de vie qui nous, quelquefois, nous déconstruit. Et d'autre part, de nouveaux horizons, que ce soit en direction de l'Orient ou aussi en direction, n'est-ce pas, des Amériques. J'ai sous les yeux le livre intitulé « Mieux vivre avec les accords Toltec ». Voilà, une sagesse qui nous vient d'Amérique centrale.
On en parlera, hein, ça c'est, on pourrait, d'ailleurs on peut le citer maintenant, j'ai trouvé un article, enfin plusieurs articles sur ce sujet, un par exemple de Géo, qui est assez récent, je crois qu'il date du printemps dernier, en pleine forêt ou en ville, le boom du néo-chabanisme en France, et il y en a un autre, c'est la voix du Nord, enquête sur cette forme de spiritualité qui fait de plus en plus d'adeptes, demain touche chaman, voilà, alors ça c'est pas cité en fait dans cette étude, mais c'est, on va dire, le retour de religion dite animiste. Mais peut-être qu'on y reviendra. Moi, j'avais une autre question, Daniel Vigne, c'est que pour ceux qui vous ont déjà entendu à cette antenne, vous êtes un peu de la génération qui a connu Lanza del Vasto, qui vous êtes intéressé à ce type de recherche. Alors, vous préciserez peut-être qui est Lanza del Vasto. Bref, vous avez connu, en fait, le boom d'une certaine recherche spirituelle dans la fin des années 70-80.
Oui.
Vous y voyez juste une résurgence de ce type de recherche?
Justement, j'avais envie de dire, c'est que même si dans l'instant on peut expliquer, je dis d'un point de vue sociologique, ce qui se passe autour de nous, on peut aussi se dire que ça vient de beaucoup plus loin, et pas seulement des années 70, mais d'une sorte de vague, de lame de fond et d'interpellation, je crois, pour nous chrétiens, dans la rencontre de d'autres traditions, d'autres courants spirituels, dans ce qu'ils ont de meilleur à nous apporter, et que peut-être nous avons un peu négligé dans notre propre tradition. Donc il y a là une lecture beaucoup plus vaste, on pourrait dire, et sur le long terme qu'on peut faire, et qui nous ramène, vous savez qu'ils me tiennent à cœur, au père de l'Église, au père du désert, à la naissance du christianisme. Il y a quelque chose aussi d'un dialogue immémorial, enfin, en tout cas, qui multiséculaire, qu'il faut nouer aujourd'hui, ou renouer, avec des choses qui nous viennent de très loin.
Mais Daniel Vigne, est-ce que vous voyez une différence entre ce que vous avez pu lire, ce que je vous avais fait suivre, donc un résumé de cette enquête, et ce que vous avez connu dans les années 70-80? Ou est-ce que pour vous, ça y ressemble?
Oui, la différence, c'est que les supermarchés s'en sont emparés. Et qu'il y a un rayon, ou plutôt des rayons aujourd'hui, partout sur ces choses. Alors que il y a 40 ans, c'était plus confidentiel. Donc, vous voyez, là aussi, la mondialisation a pris le train en marche, hein, ou plutôt, elle l'a même accéléré. Et donc, c'est devenu un marché en soi, quelque part, le spirituel ou ce qui y ressemble. Donc, ça, c'est une nouveauté. Deuxièmement, la diversification des propositions, avec effectivement des nouveaux maîtres, des nouvelles propositions, un peu à peu près tous les 6 mois, il y a une mode qui déferle, donc une exigence de lucidité. Mais il est bon sans doute que divers sons de cloche nous parviennent et nous obligent à un certain discernement.
Alors, ça aussi, je le dis souvent à cette antenne. Donc, si on regarde justement le top des ventes sur Amazon, hein, vous disiez qu'aujourd'hui c'était une spiritualité de supermarché. On peut voir ça de manière, on va dire, un peu hautaine et moqueuse, mais on va aussi, on cherche là aussi là où on se trouve. Le top des ventes en 1, c'est les 4 accords Toltec. Donc, c'est un chaman, hein, qui propose donc une voie de développement personnel. Un certain Miguel Ruiz. En 2, 2, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, et en 3, L'alchimiste, donc ce fameux livre de Paulo Coelho. J'aimerais qu'on se penche un petit peu sur le profil de ces chercheurs de Dieu, et que vous nous disiez ce que vous rencontrez en Ariège ou peut-être aussi à Toulouse. Je donne quelques éléments et je vous laisserai compléter. Cette enquête parle surtout de femmes entre 45 et 65 ans, souvent de tradition chrétienne, pour un certain nombre qui vivent seules. Voilà, qui se définissent comme des chercheurs de spiritualité, qui sont aussi des gens souvent en fait assez diplômés. En tout cas, il y a peu de gens qui n'ont que le bac ou moins. Édouard de la Portalière à Toulouse, en Ariège, qu'est-ce que vous rencontrez? À quoi ressemblent ces personnes? Est-ce que c'est raccord avec ce qu'on vient de citer?
Alors de fait, je dirais que la majorité des personnes que je rencontre qui sont dans une démarche spirituelle sont un petit peu dans ce profil d'âge et de formation. Après, en Ariège, nous avons aussi la deuxième, voire la troisième génération de gens qui ont fait un retour à la Terre. Donc les enfants, petits-enfants de ceux qui sont arrivés dans les années 70, dont un certain nombre donc sont restés. Et ils ont développé en fait toute une philosophie de la vie, toute une... Pour prendre un exemple, donc dans certains villages où je vais, il y a des écoles dont les institutrices sont dans cette mouvance, je dirais cette sensibilité spirituelle très ouverte, et tout en étant dans des approches laïques, font des temps de méditation avec les enfants, des temps d'intériorité avant de commencer la classe. Et dans des écoles, même certaines écoles hors contrat, mais aussi dans des écoles publiques. Et donc il y a une sensibilité, un éveil spirituel chez un certain nombre de ces enfants, de ces familles. Et je suis toujours très très frappé en fait quand je les rencontre, donc quel que soit l'âge, de voir qu'effectivement il y a une ouverture. Après, il y a une sorte d'anticorps ou de vaccin par rapport aux institutions, que ça soit l'État ou les religions instituées comme l'Église catholique. Donc il y a une méfiance a priori très forte sur toute démarche institutionnelle, parce que donc les institutions sont vues comme des lieux d'oppression, des lieux de dogmatisme, de systématisation et finalement de négation de la personne. Et donc il y a tout un travail, et c'est un petit peu ce qui est au cœur de ma mission aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes qui sont dans ces recherches-là, spirituelles, de découvrir qu'on peut trouver aussi quelque chose de spirituel dans les institutions. Et je terminerai par là, c'est ce que m'avait dit un jour une jeune femme dans le cadre d'une formation à l'accompagnement en soins palliatifs, qui m'avait dit, avant de vous rencontrer, je pensais pas trouver quelque chose de spirituel dans la religion catholique. Texto.
C'est une remarque qu'on vous fait souvent, ou vous la citez parce qu'elle est symptomatique?
Elle est symptomatique, c'est-à-dire que les gens ont une image, à tort ou à raison, de l'institution catholique. Ce qu'ils en voient, c'est souvent les rites où ils ne comprennent rien, où finalement les personnes sont très âgées, quelque chose de très, finalement, qui ne nourrit pas, qui ne n'ouvre pas à l'intériorité.
Si on continue dans cette première partie un petit peu à détailler cette enquête, il ressort en fait que les principales pratiques spirituelles donc de toutes ces personnes, alors c'est en un la méditation. En deux, ce sont les arts, donc activités artistiques qui mêlent aussi le corps, on pourrait en citer un certain nombre. En trois, c'est la pratique d'une spiritualité chrétienne. Alors, j'ai pas tout à fait compris ce qu'il fallait mettre derrière, si c'était une pratique religieuse chrétienne classique ou si c'était pratique, on va dire, d'une expérience de la prière chrétienne. Et en quatre, le développement personnel. Est-ce que ça vous a surpris? C'est-à-dire qu'en fait, la méditation est en train de détrôner quelque part dans le cœur des Français, si on lit bien cette étude et si on se projette peut-être à 5-10 ans, la prière, vous qui avez écrit des livres là-dessus, Daniel Vigne, comment ça vous fait réagir? Méditation, activité artistique et corporelle, développement personnel.
Oui, j'aurais mis les activités corporelles en premier dans cette liste, mais voilà, si les chiffres sont là, la méditation gagne et c'est très bien. Ceci dit, moi je fréquente et j'ai pratiqué aussi certaines de ces disciplines, parfois héritées ou inspirées du yoga ou d'autres du qigong, et qui ont un je pense, un fort impact qui exerce un grand attrait. Et on le comprend là aussi. Notre corps, il est un peu malmené, n'est-ce pas, par la malbouffe, comme on dit, et tant d'autres choses. Donc, retrouver ce support dans lequel nous habitons et qui est plus qu'un support et plus qu'une maison, cet être de chair qui est le nôtre et nous réconcilier un peu avec lui. Moi, je crois que ces techniques corporelles, elles sont bénéfiques, elles ont leur pertinence et leur utilité.
Est-ce que vous pouvez en décrire juste quelques-unes pour ceux qui n'en sont pas familiers, qui connaissent pas du tout la méditation? Alors, on imagine que c'est un continent, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Oppose pas à la méditation dans la mesure où, par exemple, dans le Hatha Yoga, chaque posture, ce sont pas des mouvements à proprement parler, comme des gymnastique, mais des attitudes dans lesquelles on est censé rester un certain temps et respirer. Chaque posture a quelque chose de méditatif, si vous voulez. Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit détaché de lui. Dans le Qigong, que je connais un petit peu aussi, il y a des mouvements lents, mais qui s'accompagnent de ce qu'on appelle la pleine conscience ou l'attention à soi, à la fois intérieure et extérieure. Et que de bienfaits on peut retirer, je pense, de ces formes très simples, quelquefois, comment dire, qui relèvent du bon sens, de se réapproprier son propre corps qui nous est devenu quelquefois un corps étranger. Maintenant, on nous met aussi en garde parfois à l'égard des philosophies qui sous-tendent ces techniques, et il faut y veiller, savoir dans quel sens on les pratique, sous quel signe on les place, et quelle est leur orientation profonde, spirituelle et religieuse, mais nous en parlerons tout à l'heure.
On va faire une première pause, hein. Si on doit citer certaines de ces activités, on va dire corporelles ou énergétiques, donc zen, yoga, respiration, qigong, c'est comme ça qu'on dit ?
Qigong,
pardon, reiki, la pratique du jeûne aussi, hein. Voilà, danse, biodanza, etc. On fait une première pause. Je cite juste une phrase extraite de cette enquête. La démarche spirituelle ne consiste pas à fuir le monde, mais à donner de l'épaisseur au monde. Je pense que ces chercheurs se retrouverait dans cette citation. On fait une pause et on vous retrouve pour continuer à détailler cette enquête et surtout pour essayer de rentrer à plein dedans, voir les questions que ça peut poser aux chrétiens que nous sommes et éventuellement les réponses à apporter.
Thank you. Présence.
Vivante Église. Emmanuel Pella.
Peut-on trouver Dieu en se cherchant soi-même ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Daniel Vigne, qui est diacre pour le diocèse de Toulouse et professeur à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, et Édouard de la Portalière, qui est prêtre missionnaire dans le diocèse de Pamiers, donc en Ariège, et enseignant, lui, à l'Institut d'études religieuses et pastorales, IERP, toujours de l'Institut catholique de Toulouse. On s'est dit, ce qui serait une manière de continuer à prolonger la citation de cette étude, et puis de faire part évidemment de vos expériences, qu'on allait essayer de voir ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait de positif en fait dans ce nouveau continent spirituel, voilà, qui est là de toute façon, hein, qu'on le veuille ou non. Je voulais commencer par vous lancer sur la place faite à l'expérience. J'ai noté dans cette étude combien l'expérience a un rôle central. Je vais citer une ou deux choses. Ce qui est vrai, c'est ce que j'éprouve moi-même. Je cherche à avancer à mon rythme. Voilà, donc en fait, il y a une quête spirituelle, mais dont je suis quelque part le disciple et le maître. On a parfois un petit peu l'impression. Et puis, c'est une quête spirituelle qui doit me faire du bien. Il y a deux manières de voir, je trouve, cette expérience. C'est-à-dire, soit on le critique rapidement en se disant c'est très égocentrique, hein, c'était un peu le sens du titre. Soit on se rappelle que, de toute façon, toute religion, toute spiritualité part de l'expérience. Daniel Vigne, qu'est-ce que vous diriez ? Faut-il balayer ça d'un revers de main ou au contraire y voir là un signe des temps ?
On se demande comment une spiritualité dont on ne ferait pas l'expérience pourrait nous toucher, pourrait nous intéresser. Si un message spirituel ne rejoint pas en profondeur et existentiellement notre être, ça devient, je sais pas, une sagesse purement théorique, ça n'a à la limite aucun intérêt. Donc on comprend bien qu'on puisse dire et lire et entendre que on veut expérimenter, mettre, comment dire, ses pas dans et toucher de ses mains les vérités qu'on veut expérimenter ou qu'on veut découvrir. Je repense à la question de cette émission. Peut-on trouver Dieu en se cherchant soi-même? Je dis oui. Je dis positivement oui, et sous le signe de cette expérience de Dieu que l'on fait en soi-même. Si je dois rencontrer Dieu un jour, où vais-je le rencontrer sinon en moi-même, n'est-ce pas? Donc la conjonction, la rencontre, la relation entre Dieu et ma pauvre petite personne, il faut bien qu'elle n'écrase pas cette personne, mais qu'elle la rejoigne, qu'elle la comble, qu'elle étanche sa soif. Oui, à l'expérience, donc à l'expérience spirituelle. Et nous catholiques, peut-être, nous avons pour de multiples raisons, parfois quelques réticences à souligner cet aspect, comment dire, un peu affectif, un peu vécu, mais il a tout à fait sa place. Et oui aussi à l'idée que dans ce creux intérieur, dans cette alcôve, cette chambre la plus secrète qui est mon âme, qui est mon être, eh bien c'est là que Dieu peut se révéler à moi, se communiquer à moi.
Édouard de la Portalière, si on devait forcer un petit peu le trait au risque d'être un peu provocateur, est-ce qu'il n'y a pas en fait un grand courage spirituel de la part de tous ces chercheurs à vouloir d'abord chercher quelque chose qui est vrai et dont ils font l'expérience? Et parmi tous les gens que vous rencontrez, est-ce que souvent vous n'êtes pas admiratif en vous disant ils ont osé sortir des sentiers battus, mais peut-être pour y trouver ce qu'ils ne trouvaient plus dans leur religion d'origine?
C'est sûr que, on dit que la bienveillance est un fruit de l'esprit. En tout cas, c'est quelque chose qui m'habite aujourd'hui. Et avec ce regard bienveillant, je découvre effectivement énormément de merveilles chez ces gens-là, même dans certains groupes. Pour prendre un exemple, beaucoup d'entre eux jeûnent. Voilà, de manière assez radicale, ils prennent juste de l'eau pendant plusieurs jours et ça. Moi, je vois le mal que j'ai pendant le carême à essayer de me priver de gâteaux ou de sucreries ou de telle ou telle chose. Enfin, je me dis, mais on est à des années-lumière. Il y a une exigence chez eux dont je suis absolument incapable. C'est-à-dire qu'il y a un grand entraînement chez un certain nombre de ces personnes qui, depuis des décennies parfois, effectivement, sont sur un chemin de spirituel et qui, de fait, cherchent une grande cohérence. Mais comme toute réalité humaine, il y a aussi des fragilités et des failles. Et c'est vrai que je constate que autant sur certains domaines, il y a une très grande cohérence, au niveau de la l'ascèse, au niveau de la compréhension des choses, au niveau de la, oui, d'un style de vie aussi, une vie très sobre. On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. Je veux dire, ils sont en pointe dans ces domaines-là très souvent. Et à côté de cela, dans d'autres domaines, je dirais sur le domaine affectif par exemple, au niveau familial, enfin là c'est très souvent compliqué quoi, voire chaotique. Donc je vois bien que il y a des lieux où j'ai vraiment à recevoir d'eux et je reçois d'eux beaucoup, et d'autres domaines où peut-être la tradition, l'expérience de foi chrétienne a vraiment quelque chose à leur apporter. Et c'est ma conviction de fond. Bon, après, on parlera de la personne de Jésus et de l'expérience avec la personne de Jésus. Mais en tout cas, je voudrais reprendre la vision de Jules Montchanin, là, qui est un prêtre qui a vécu en Inde et qui avait fondé avec Henri Le Sceau un ashram pour justement qu'il y ait une rencontre entre la spiritualité chrétienne et la spiritualité hindoue.
Un ashram chrétien. Qui était bénédictin.
Et voilà, sa vision, c'est transmettre le vin enivrant de la nouveauté du Christ à nos frères non chrétiens et recevoir d'eux tout ce que l'Esprit a déposé dans leur cœur. Bon, c'est vraiment la vision du concile, enfin bon, quand on prend...
Redites-le, parce que c'est intéressant, et puis expliquez peut-être.
Transmettre le vin enivrant de la nouveauté du Christ à nos frères non chrétiens et recevoir d'eux tout ce que l'Esprit, avec un grand E, a déposé dans leur cœur. Et c'est vraiment cette expérience que, chez ces personnes-là, il y a plus que des pierres d'attente, les semences du Verbe, enfin on peut prendre un tas de termes, mais je vois qu'il y a une expérience vraiment profonde de Dieu. Mais ils vont pas mettre les mêmes mots, ils seront pas... Et lors de la rencontre, il peut se passer des choses très fortes et très belles. En tout cas, moi, c'est un chemin de découverte de mon Dieu. Voilà, Dieu prend un visage beaucoup plus large et beaucoup plus grand depuis que je connais ces gens-là. Et en même temps, je vois bien que, par ma rencontre, un certain nombre de personnes découvrent que dans leurs racines religieuses chrétiennes, eh bien, il y a des choses qui, finalement, les nourrissent aujourd'hui et elles ont quelque chose à retrouver, ou en tout cas, elles désirent retrouver quelque chose qui les habite, en fait, mais qu'elles avaient fui parce qu'il y avait une blessure, une souffrance, et donc elles ont été parfois en Inde, enfin, très, très loin. Bon, excuse-moi, je sais pas si je peux continuer, mais...
Allez, s'il vous plaît.
Un certain nombre d'entre eux, par exemple, ont rencontré un personnage assez emblématique aujourd'hui qui s'appelle Ama, qui est une femme donc qui prend dans ses bras, qui console beaucoup de gens, et des milliers de gens vont la voir.
Qui est d'origine hindoue, il faut le dire.
D'origine hindoue.
Même si elle prend quelques libertés en fait avec l'hindouisme
voilà, tout à fait. Ouais. Et en même temps, donc à la fois elle a un charisme extraordinaire personnel, et en même temps, comme Mère Teresa, elle a créé des hôpitaux, enfin c'est impressionnant, toutes les œuvres caritatives qui émane de son action.
Vous pouvez juste expliquer, en fait, donc il y a des Ama vient en France comme elle vient en Europe, il y a des rassemblements,
il y a
des milliers de personnes qui viennent.
Juste pour se faire prendre dans ses bras, parce qu'elle a un charisme.
Et qui disent qu'ils font une expérience spirituelle très forte.
Très forte. Et je connais un certain nombre de ses disciples, dont certains sont restés une décennie avec elle, qui en fait, à son contact, et même elle leur a dit, un peu comme Gandhi, de retourner à leurs racines chrétiennes. Voilà, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre eux ont retrouvé l'évangile, ont retrouvé une démarche de foi avec la personne du Christ grâce à la rencontre avec Ama. Et je me dis, quand je vois cette chasteté-là, cette liberté, de fait, moi je me dis que j'ai beaucoup à apprendre en fait. Et j'espère avoir cette même liberté un jour.
Daniel, vous vouliez réagir, et puis après j'avais une question sur la paix.
Je suis heureux qu'Edouard évoque l'Inde, parce que on a cité le nom de Lanza del Vasto tout à l'heure, qui a été effectivement un des précurseurs, je crois, de cette rencontre, de cette ouverture pour nous occidentaux au trésor spirituel de l'Inde, donc dans le pèlerinage aux sources qu'il fait en 1937 en Inde, à la rencontre de Gandhi, lui qui était chrétien, catholique. Voilà, s'ouvre effectivement à cette tradition, sans du tout mêler ni, comment dire, brouiller les repères qui sont les siens, mais en recevant le parfum, le souffle. Et bien sûr aussi, il y a tout l'héritage de la non-violence à travers la personne de Gandhi.
Alors, il faut juste dire que Lanza del Vasto, c'est donc une grande figure spirituelle.
Tout à fait.
On va dire de l'après-guerre, hein, années 70-80, et qui a même parfois un certain nombre de communautés nouvelles qui ont connu...
Bien sûr. Et
communautés continue, nouvelles chrétiennes. Hein.
Voilà, je fais connaître l'œuvre de ce grand penseur. Donc j'ai réédité plusieurs œuvres qui sont en plein dans notre sujet et que nos auditeurs peuvent éventuellement retrouver, approche de la vie intérieure. Vous voyez, nous sommes dans cette quête de spiritualité un peu large, pleinement compatible, dans ce cas précis en tout cas, avec l'Évangile, et même orientée vers la personne du Christ. Lanza del Vasto mettait son message sous le signe, le patronage de Saint Jean-Baptiste. Voilà, préparer les chemins du Seigneur. Il faut quelque chose de l'ordre d'un labour intérieur, d'une prédisposition. Eh bien, ces sagesses, ces exercices de méditation, de réappropriation du corps, d'apaisement tout simplement, vont dans ce sens. Et je crois aussi que Lanza del Vasto peut rester, et est encore pour beaucoup aujourd'hui, un des témoins permanents alors de cette redécouverte de notre propre tradition chrétienne, adossée, appuyée sur quelque chose de plus large. Il n'y a pas à opposer le christianisme à tout ce qu'il a précédé, mais comme l'a fait le Concile, à entrer en dialogue, et plus qu'en dialogue, en relation, en symbiose, à certains égards, avec cet immense trésor.
Alors, j'aimerais poser une autre question. On l'a vu avec, le partage de votre expérience, Édouard de la Portalière. Mais quelle question ça pose en fait à l'Église, parce que vous êtes donc prêtre, diacre. L'un est à Toulouse et l'autre est en Ariège, hein, et c'est à une heure de voiture, mais c'est deux mondes. Quelle question ça pose à l'Église? Est-ce que ça vous en pose? Et puis, Édouard, on imagine que ça en pose aussi chez vous, et puis à votre évêque, Monseigneur Echen, quelles sont les grandes interrogations que provoquent en fait les rencontres de ces nouveaux chercheurs?
Alors je dirais que cette question...
Est-ce que vous réunissez entre vous et vous dites, mais enfin, il faut qu'on repense tout de A à Z
Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une période de grande transition et de bouleversement à beaucoup de niveaux. Donc je dirais que pour beaucoup de mes confrères, et on est dans une logique pour l'instant d'essayer de gérer la crise comme on peut et d'essayer d'assurer un peu tous les services, parce que bon, il y a un surmenage et un travail quand même important avec peu de personnes. Donc avoir le temps de réfléchir à toutes ces questions-là, etc., ça suppose bon d'avoir un ministère comme le mien, et je remercie mon évêque pour cela, de me donner du temps. Donc je suis détaché de la paroisse, hein, je donne des services en paroisse, mais je suis beaucoup plus disponible pour justement rencontrer un petit peu toutes ces personnes et être attentif à toutes ces réalités nouvelles, enfin aux réalités du monde en fait, au sens large, parce que je rencontre aussi des gens j'ai été dans des loges ou dans des groupes de danse de la paix, enfin bon voilà, je vais dans différents lieux, et je m'aperçois qu'en fait, dans tous ces 95% de gens qui ne fréquentent pas nos églises de manière habituelle, il y a effectivement beaucoup de gens qui cherchent. Et donc, ce que ça pose comme question à l'Église, c'est pourquoi, d'abord, la première question, c'est pourquoi ces gens-là ont quitté l'Église. Ça veut dire qu'ils n'y trouvaient pas cette quête spirituelle, ce que je disais par rapport à la réaction de cette jeune femme tout à l'heure. Voilà, que les gens ont le sentiment que, en fait, le rite religieux catholique n'est pas quelque chose porteur de spiritualité en lui-même. Donc ça, c'est une première question. Donc se poser la question par rapport à notre liturgie, notre manière de célébrer, notre manière d'habiter nos célébrations, et comment nous intégrons effectivement la nouveauté de l'esprit, parce que je crois que l'esprit a quelque chose à nous dire très fort aujourd'hui. Après, j'ai eu la joie moi-même d'enseigner la spiritualité au séminaire pendant quelques années, et j'ai vu à quel point finalement la spiritualité et quelque chose qui est à la fois extrêmement ancien, enfin Daniel le sait, l'enseigne aussi, et il y a une longue tradition spirituelle dans l'institution catholique, mais que par pragmatisme et par facilité par rapport à, en fait, d'avoir été pendant très longtemps une religion d'État, on s'est contenté de la frange je dirais, un peu extérieur, un peu bon liturgique au sens un peu ritualiste du terme. Et finalement, toute la quête de profondeur, on l'avait un peu oubliée, et elle restait dans des lieux très fermés, quelques abbayes, quelques groupes un petit peu de spiritualité. Mais finalement, la masse des gens n'a pas eu cette expérience-là. Et je crois que la chance que c'est pour nous aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. Soit on réouvre vraiment cette dimension de la spiritualité dans l'institution, soit effectivement on continuera à se réduire comme une peau de chagrin. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est pas le mouvement qui est en train d'être pris, c'est que justement il y a cette prise de conscience quand même malgré tout, pas dans la masse, mais en tout cas de manière de plus en plus forte.
On va faire une deuxième pause et puis je vous laisserai réagir après. Et puis on vous retrouve donc pour cette émission. Peut-on trouver Dieu en se cherchant soi-même ?
Présence à Souillac, 104.8.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Peut-on trouver Dieu en se cherchant soi-même ? C'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, autour du plateau, Daniel Vigne, diacre pour le diocèse de Toulouse et professeur à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, et Édouard de la Portalière qui lui est prêtre dans le diocèse de Pamiers, donc en Ariège, et enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales. On se penche aujourd'hui donc sur ce continent, cette forêt, donc cette nouvelle réalité en tout cas de la recherche spirituelle des Français, voilà, qui sont plus attirés, je l'ai déjà dit, par des ouvrages comme les Quatre Accords Toltec de Miguel Ruiz, donc chaman, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, ou l'alchimiste, même si c'est un roman de Paulo Coelho. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Je vous freine parce que sinon ça pourrait finir en conversation de salon, enfin d'alcôve. Avant de vous laisser tout à fait la main, j'avais quand même peut-être une question. Si on essaie de voir les réserves que l'on peut avoir à l'égard de ce type de recherche spirituelle ou les prudences, je me suis dit la chose suivante en me repenchant dans le catéchisme de l'Église catholique, que la foi, c'est aussi un consentement de l'intelligence. Et donc, il n'y a pas que de la place à l'expérience. Qu'est-ce que vous diriez sur ce volet, Daniel Vigne ? La foi chrétienne, ce n'est pas seulement ressentir quelque chose, la paix, l'harmonie, la joie, ou vérifier par ses sens ou par sa vie, c'est aussi un moment dire oui à une vérité qui nous est révélée.
Tout à fait. Mais j'opposerai moins ici l'intelligence à, disons, la sensibilité. J'inscrirai ça plutôt dans chose de plus large, où l'intelligence, la sensibilité et la volonté doivent converger. Et ce qui me paraît plutôt un risque ou une déficience ou un enjeu, c'est le rôle de la volonté, c'est-à-dire le choix. À un moment donné, le chercheur, on peut espérer qu'il trouve, non ? Et non pas qu'il s'installe presque confortablement dans son état de chercheur. Ça peut être presque une solution de facilité, de dire « je cherche, mais je me refuse à trouver ». Est-ce que la quête de sens, de vie intérieure qui est vécue dans ces milieux, dans ces mouvements, ne connaît pas un risque effectivement de dilution, de, je dirais, d'installation dans la non-réponse. Et pour nous chrétiens, pour qui le visage du Christ illumine toute chose, sans pour autant, comment dire, accaparer, ni éteindre, ni occulter, ni écraser quoi que ce soit, mais le visage de Jésus qui est la lumière du monde, comment est-ce que nous pouvons à la fois le proposer et puis aussi le laisser approcher par les gens qui sont en chemin vers celui qui dit « je suis le chemin ». C'est une des questions, à mon avis, que ces mouvements se posent à l'Église et au christianisme. Comment faire découvrir Jésus en personne comme étant le chemin, la vérité et la vie. D'ailleurs, dans ces trois termes, vous voyez,
il y a aussi
le chemin et il y a aussi le but. Et puis il y a l'élan qui nous fait vivre et qui nous porte sur ce chemin. Mais c'est une personne et c'est un autre enjeu, mais c'est un peu le même sur lequel je réfléchis parfois. C'est que on dit énergie, on dit esprit, on dit vie intérieure dans un sens large.
Et présence à l'intérieur de soi, dit l'enquête.
Mais comment être présent à soi tout seul? Comment ces retrouvailles avec soi-même peuvent-elles se contenter, je dirais, de soi? Au fond de moi, il me semble que j'ai la soif d'un autre, la soif d'un amour à la fois à donner et à recevoir. Et donc, ce côté un peu privatif, parfois, on dit quelquefois individualiste, de ces quêtes, serait, comment dire, un peu desséchant à terme s'il n'était que le souci de soi et non pas la quête, la soif, l'amour d'un autre.
Édouard de la Portalière, qu'est-ce que vous diriez sur cette place de la volonté? Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait beaucoup de choses qui vous édifiaient et qu'en même temps, souvent, c'est des gens qui ont des vies personnelles, familiales, affectives, compliquées. Est-ce qu'il y a un lien là aussi avec la question de la volonté?
Je crois qu'il y a un lien avec la volonté, mais il y a aussi un lien avec la question de la structuration. C'est-à-dire que, je dirais, ce qu'apporte fondamentalement une religion, c'est un cadre. Le cadre avec un danger toujours d'être trop rigide et finalement dépersonnalisant aussi, hein, de trop nier la dimension personnelle, individuelle. Mais en même temps, ça donne un cadre de référence dans lequel finalement ma liberté peut s'exprimer. J'ai pas besoin de réinventer le fil à couper le beurre à chaque moment. Et disons que là, ce qui est quand même très exigeant dans les postures souvent de ces chercheurs de sens et de spiritualité, c'est que finalement, ils sont obligés de tout reconstruire par eux-mêmes. Et c'est tellement épuisant et ça touche tellement de domaines que forcément, il y a des zones blanches. Enfin, les endroits ça capte pas, quoi. Voilà. Bon. Et je crois que l'apport. Et moi, c'est ce que ça me révèle de la force de ma religion. C'est que finalement, le fait d'être dans une tradition, d'être dans un sillage. J'ai pas besoin de tout réinventer, quoi. Par contre, il y a une exigence d'aller en profondeur, mais il y a un certain nombre de choses qui sont, c'est établi. Alors, je peux interroger ces positionnements institutionnels, mais j'ai pas besoin de tout réinventer, voilà. Donc, effectivement, la question de la volonté, c'est quand elle doit tout décider, elle peut pas, quoi. C'est trop. Donc, notre liberté, elle est dans un cadre. Et je crois que c'est ça aussi que nous apprend la religion, c'est que finalement, j'ai été posé à une place qui est la mienne. Dans une mission qui est la mienne, mais je peux pas tout faire, j'ai pas à tout faire, j'ai pas tout à inventer, j'ai pas, voilà. Et puis une autre chose aussi, c'est que, ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est que les chercheurs de spiritualité, enfin, ils vont faire une expérience. Et il y a un moment où ils vont être face à l'inconnu. Et c'est vrai que la question de l'altérité est centrale dans la révélation. Hein, c'est-à-dire que cet inconnu, bon, c'est ce que Paul fait avec les Athéniens, hein, quand le Dieu inconnu, bon, ben nous on l'a rencontré, il s'est fait connaître, voilà. Cet inconnu qui est en chacun, nous il a un visage, c'est Jésus. Et c'est vrai que le fait de cheminer avec ces chercheurs de spiritualité, de sens, en fait moi ça me renvoie vraiment à Jésus de plus en plus. Et finalement cet inconnu qu'il cherche, ben moi je l'ai rencontré, voilà. L'Église nous le donne, et ça c'est le deuxième point aussi qui me paraît très important, c'est l'expérience d'Église. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, des gens qui se retrouvent en groupe, mais fondamentalement, il n'y a pas cette expérience de peuple. Et l'Église, c'est vraiment ce peuple de marcheurs.
Ils n'ont pas l'impression de faire partie d'un même peuple, parce que quand on en croise en Ariège, on se trouve qu'il y a une grande fraternité entre eux, en tout cas.
Oui, c'est... mais il n'y a pas cette notion d'appartenance à un peuple en marche, à une réalité beaucoup plus large. Bien sûr, il y a une solidarité entre eux, qui est très forte et très belle, hein, dans plein de domaines, et édifiante, et moi je m'inspire, en tout cas j'essaie de m'inspirer dans certains domaines, notamment au niveau de l'entraide, etc. Mais cette conscience qu'en fait j'appartiens à un peuple qui est choisi, qui est aimé, comme peuple. Et c'est vrai qu'un certain nombre de ces personnes qui aujourd'hui ont rejoint l'Église, l'ont rejoint parce que elles ont fait l'expérience d'appartenir à cette famille, à ce peuple, qui est aimé comme peuple. Et ça, c'est vraiment central aussi. Il n'y a pas que la personne de Jésus, il y a aussi la conscience d'Église comme peuple.
Il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, c'est bon signe. Moi, je voulais juste peut-être vous poser, pour finir, une question sur la paix. Parce que on sent que la motivation profonde, et Dieu sait si on la comprend, hein, c'est la recherche de la paix. On peut se souvenir de cette parole du Christ, hein, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne, comme la fine pointe, hein, comme le cadeau ultime que le Christ fait quand il remonte vers son Père. Est-ce qu'il n'y a pas aussi différentes paix? Alors ça sera peut-être une ouverture en cette fin d'émission. Qu'est-ce qu'il faut entendre comme paix? La paix que l'on recherche, la paix que décrivent ces gens, est-ce que c'est la même que la paix chrétienne, la paix des profondeurs? Qu'est-ce que vous diriez, Daniel, sur ce sujet?
L'image est fréquente, vous la connaissez, du lac où, dont il faut laisser l'eau s'apaiser pour qu'elle devienne transparente. Et donc ces formes de quête de soi, de méditation, s'apparentent effectivement à une décantation, un apaisement au sens d'une quête de sérénité. Lorsque Jésus dit « c'est ma paix que je vous donne », il y introduit quelque chose de plus, je crois, qui est la paix heureuse d'une relation d'amour. Le bonheur d'être avec lui et d'être aussi ensemble avec d'autres, dans cette dimension relationnelle qui a été soulignée à l'instant. Donc je crois qu'il faut pas opposer les deux. Quelquefois, ce qui nous empêche d'être en relation et avec Dieu et avec d'autres hommes, c'est effectivement notre tumulte intérieur, ce brouillage, cette cacophonie. Bon, donc arrête, pose-toi. Hein, Lanza del Vasto prônait ce qu'il appelait le rappel. C'est une sorte de mini-méditation qui pouvait durer une minute, deux minutes, quelques fois par jour, comme ça. Arrête. Ne pense à rien, sois présent. Présent au présent, présent à toi-même. Et là, quelque chose de l'ordre d'une respiration est possible. Non pas en forme de refermement sur soi, ma petite paix que je protège jalousement, mais une paix qui, les auteurs byzantins appelaient ça l'ésikia. C'est un beau mot qui dit effectivement sérénité, confiance, apaisement dans le sens large du terme et dans le sens quasi mystique aussi d'une union avec Dieu et dans l'amour. Je rejoins ici peut-être le thème de la volonté. Je voudrais y ajouter quelque chose. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas quelque chose de l'ordre d'un manque de volonté au sens volontariste du terme. la fine pointe de la volonté, chacun peut le comprendre, elle est dans un acte, j'allais dire, d'abandon de la volonté. Le suprême acte volontaire, c'est pas celui qui nous fait tout tenir, c'est celui qui nous fait nous confier, nous offrir, nous donner, nous abandonner quelquefois. Et je crois que les quêtes spirituelles, si diverses qu'elles soient, et parmi nos auditeurs certainement, certains se sentent sur ces chemins, eh bien il est bon de savoir qu'à un moment donné, elles ouvrent, elles doivent ouvrir à quelque chose qui est une façon de se déposer, de se confier, de s'offrir, et non pas simplement de se posséder comme si on tenait toutes les manettes de son propre être. Rencontrer Dieu ou trouver Dieu au bout de la en se cherchant soi-même, c'est aussi, comme disait Pascal, se laisser trouver, voyez, se rendre compte qu'on est regardé, qu'on est cherché, que quelqu'un vient à notre rencontre et qu'on n'est pas seul sur ces chemins-là.
Eh ben, merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce matin au micro de Vivante Église. On fera d'autres émissions sur ce sujet. Dieu sait s'il est important et s'il est méconnu. Pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, eh bien, on peut les renvoyer au journal La Croix. C'est le titre d'un article qu'on peut trouver dans les archives, qui sont les nouveaux chercheurs spirituels. La Croix, le journal La Vie et autres qui font écho à cette étude, donc, de 2014 menée par Philippe Levallois. On peut citer votre ouvrage, donc Chemin de prière à l'écoute des pères, paru aux éditions du Carmel. Et pour Lanza del Vasto, qu'est-ce que vous donneriez comme titre, Daniel?
J'en ai deux: Approche de la vie intérieure et un très beau livre qui m'a bouleversé à l'adolescence et qui s'intitule Principes et préceptes du retour à l'évidence.
Alors le premier est de vous et le deuxième est de...
Non, les deux sont de Lanza del Vasto.
Les deux sont de Lanza del Vasto, pardon.
Et publié récemment, republié chez DDB.
Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Rémi Souloumiac. Pardon. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.